Notre émission de ce jour est la deuxième d'une nouvelle émission de Radio Canu. Le titre en est Vendémiaire et vous pourrez retrouver cette émission chaque lundi à 20h. Pour honorer cette nouvelle émission, nous vous proposons la suite d'un entretien avec Maurice Pierre. Maurice Pierre est aujourd'hui âgé au moment de la réalisation de cet entretien de 88 ans. Il est un des derniers survivants, peut-être le dernier et en tout cas le seul que nous ayons pu rencontrer, du maquis Vendémiaire qui fut le premier maquis créé dans le Rhône en mars 1943. Il a bien voulu nous rencontrer et évoquer pour nous les souvenirs de son parcours de vie et de résistant durant la guerre 1939-1945 et en particulier ceux qui concernent son passage dans le groupe FTPF dit des Cordeliers à Lyon autour d'Antoine Fonlupt. Nous vous proposons donc de retrouver Maurice Pierre au fil de notre conversation que nous agrémenterons de quelques plages musicales. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose d'écouter La Complainte des Nazis de Maurice von Mopp sur l'air de La Complainte de Mandrin, interprétée par Mouloudji.
Ils sont toute une bande, leur multitude est grande, vêtus de vert de gris, ce sont nos maîtres, vous m'entendez? Vêtus de vert de gris, ce sont nos maîtres nazis, occupant notre patrie, menant la bonne vie. Ils ont pris et volé tout ce qu'on peut, vous m'entendez? Ils ont pris et volé tout ce qu'on peut manger. Grand tas du mouchardage, fusillant nos otages. Ils veulent prendre nos gars pour les emmener, vous m'entendez? Ils veulent prendre nos gars pour les emmener là-bas. Mais un peu de patience, ils quitteront la France. Vous ne les verrez plus, ils sont déjà, vous m'entendez? Vous ne les verrez plus, ils sont déjà foutus.
À vous en finir, quand la milice est arrivée à l'hôtel, au restaurant, je ne sais pas si c'est Paname ou si c'est Pargentino, ou si c'est quelqu'un d'autre, toujours est-il qu'ils ont su que j'avais les deux pièces là. Ils ont cassé la porte. Puis ils n'ont rien trouvé. Puis quand ils sont partis, ben les voisins se sont servis. Puis après la guerre, que la propriétaire de ça, son fils habitait à côté, c'était des anciens de Montbéliard. Le mari, c'est un chauffeur de taxi de Montbéliard, le Piguet. Et après la guerre, j'ai été le voir, lui, chez lui. Et il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, ils ont cassé la porte et ils ont tout pris. Puis il y a ma série de casseroles qui étaient pendues au mur. Alors je lui dis, puis ça. On me dit, c'est tout ce qui restait. Tu la veux? J'ai dit, non, garde-la. Parce qu'il y avait un nommé Bernard Buchner, qui habitait, qui avait une chambre garnie là aussi. Et qui avait mon adresse ici.
Qui était résistant aussi, non?
Non, c'était un juif, un trafiquant, quoi. Et il m'a envoyé une lettre en me disant, tu sais qu'à Lyon, il y a beaucoup de brouillard, pour tes bronches, ne reviens pas tout de suite. C'est quand ils avaient.
Vous étiez prévenu que voilà. Fallait pas revenir à cette époque.
C'est quand ils avaient rentré dans les pièces, dans l'appartement, quoi. Bon, ben, ils m'ont tout fauché ce que j'avais, que ce soit le poste ou n'importe quoi.
Et là, des armes, des documents aussi, non?
Ah, non, les armes, vous avez. Même plus fort. Quand on prend le train à Lyon, avec mon cousin. Il fallait passer par Chalon pour venir. On passait pas par Bourges, hein. C'était à Chalon le contrôle. Moi, je reste pas dans le compartiment avec toi, qui me dit. Avec tes revolvers. Dans un autre compartiment, hein. Alors, bon, ben, il passe, il demande les papiers, il fait voir les papiers. J'étais comptable. Parce que comme j'avais pas de cornet aux mains, hein, puis j'étais bien sapé parce qu'on m'avait payé un costume sur mesure, hein. Chez un tailleur, au noir. l'IFTP.
Il était où, d'ailleurs, vous vous rappelez?
Vers la Menutière.
Rue de la Guillotière, non?
Vers la Menutière. Non, vers la Menutière, là-bas. Ah, c'était un... Ah merde, Charles Aznavour, là. Un Arménien.
Un Arménien.
Un Arménien que j'ai vu, d'ailleurs, à la... après la Libération. Qui, quand il m'a fait le costume, il était chez lui, tranquille. Mais après la Libération, c'est lui qui avait tout fait. C'était le caïd. C'est ça qui m'a dégoûté le plus, après. De voir que les gars qui n'avaient rien fait, c'était tout des incroyables, les gars que c'était. Alors, pour en finir avec mon cousin, bon, passe le contrôle, il revient un moment après dans le wagon. Alors, enfin, tu vois, de voir les papiers, puis c'est tout. On arrive à la gare à Montbéliard. Parce que là, c'est 4 heures du matin. Ah, on attend la levée du couvre-feu. Ah, je dis non. Il disait, la seule moyen d'avoir des ennuis. Je dis, on garde nos tickets de train, ça nous servira de laisser passer. Et nous voilà partis. Alors, sa mère habitait rue du Stade, à Sochaux, au numéro 155. Il y a un embranchement, la rue du Stade, et la rue qui va à Grand Charmont. Alors, je lui dis à mon cousin, tu prends la valise, tu gardes ton ticket de train, s'il y a quelque chose, tu fais voir. Puis il dit, casse pas la tête, je suis derrière. Alors, dans la poche de Canadienne, j'avais le 765 puis le 12 mm, un dans chaque main, prêt à dégainer. Et on arrive au croisement. Halt! Un boche. Alors, je dis, bah, explique-lui. Alors, un trouillard fini, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort en déportation. Il tenait son billet de train, sa main faisait comme ça. Chi-chi-chi, Lyon, chi-chi-chi. Et l'autre, un vrai titi parisien. Ah, vous arrivez de Lyon? Comme ça, il dit, ben oui, on habite juste à côté, on va pas rester à la gare quand même à attendre. Alors, ben oui, les gars, allez, passez. Le temps qu'on réveille ma tante, qu'elle vienne nous ouvrir la porte, on arrive dans la cuisine, elle dit à son fils, qu'est-ce que t'as, t'es tout pâle? Oh, je sais rien. Prends les deux trucs, je les pose sur la table. Je dis, on va se faire arrêter par un Allemand, là, gros, porte dans les pommes. Mais moi, personnellement, tout était normal. Tout, je sais pas, ça faisait. Je suis passé en Suisse avec les copains. On était à pied depuis ici, en Suisse, sous la flotte. Je suis arrivé à Delle, la première maison à droite. Il y avait une véranda. J'ai été là, j'ai sonné. Il y a une mémé qui est venue. Il dit, comment qu'on fait pour passer en Suisse? Ah, oh, vous êtes culottés, vous. Ah, oh, vous êtes culottés. Mais pour moi, c'était, je sais pas, tout était normal. Tout était normal.
C'est ce qui vous a sauvé aussi, cette l'inconscience,
ben oui.
Non, c'était de l'inconscience.
Si on veut, c'est de l'inconscience.
Vivant, vivant. Et même titubant sous un vieux soleil ivre, encore tout ruisselant des sueurs de la danse, prince de ses haillons et roi de sa guenille, vivant, vivant. L'ombre des années gagne un peu chaque jour. Si chaque jour la peur s'encorne plus profond, debout, restez debout devant son taureau noir. Vivant, vivant, avec le désespoir et la mélancolie, avec la rage aussi, entre la viande et l'os. Vivant, vivant. Et même dans le blanc du silence hôpital, sous la lumière froide au bout des perfusions, couloir où clignote l'urgence. Vivant, vivant, comme au cœur obstiné de l'orchestre crachant. Un opéra d'organes, de moelles et de glandes. Du monde des désirs, des fièvres, des frissons. Vivant, vivant, avec le sang qui rôde des mille fauves rouges dans cette nuit du corps criblée de trop de cris. Vivant, vivant, et même bâillonné au bout des solitudes, au bout du rouleau triste et des heures perdues. Toute parole éteinte et toute étoile morte. Vivant, vivant, dans la boue pressentir le chant qui s'élabore. Un écho ricoché de tes combres en désert. Dans le vent qui se lève, humé une odeur d'homme. Vivant, vivant, avec l'aube incertaine et ses oiseaux probables, avec ses mains ouvertes et sa clarté qui vient. Vivant, 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 vivant.
Saint-Symphorien d'Ozon, le pays qu'on allait avec Fondu. On arrive une descente avant Saint-Symphorien d'Ozon. Il y avait une rivière, il y avait un pont. Les Allemands qui étaient en train de contrôler une voiture sur le côté. On arrive, donc Fondu, c'est la première fois qu'il voyait une mitraillette Thompson. Monsieur démonte la mitraillette pour voir comment ça fonctionnait. On arrive là, j'ai dit, l'ébauche. Oh, tu t'arrêtes pas, hein, qui me dit. Oh, mais j'ai dit non, mais dépêche-toi de remonter le truc. Un Allemand qui est de la route, fait signe, je ralentis, je fais semblant d'aller derrière. Quand j'arrive à 2 mètres de la bagnole, paf, je croche la première, un coup de volant, l'Allemand qui était au milieu de la route. Je rentre dedans et je fonce. Et je fonce et on était novembre ou décembre 43. Et quand on dit qu'on voit la mort comme ça, qu'on a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Et moi, qu'est-ce qui m'est passé dans la tête à ce moment-là? Quand j'ai vu le pont, j'ai vu un article du journal de 1940 qu'un souteneur tunisien avec une grosse buique était poursuivi par la police et avait loupé le pont, avait tapé dans le parapet. C'est pas vous. Et je tenais le volant de l'attraction, je ne fais pas le con, ne loupe pas le pont. Là, on arrive aux trois quarts du pont, Fondu, puis il me dit, prends tout de suite à gauche. J'ai pris tout de suite à gauche après, puis on est revenu par l'autre côté, mais on n'a pas été chercher notre dépôt d'armes.
Mais vous leur avez échappé. Quand même.
Mais on leur a échappé. Mais sur le moment, ça ne m'a rien fait. Mais il y a deux balles qu'on rentrait par la glace arrière des tractions, pas haute, hein. Ils étaient trois derrière. Il y avait donc Fondup, il y avait Pargentino, Paname, il était à côté de moi, il y en avait un troisième. Paname, il était à côté de moi, ce con-là, j'arrivais pas à changer de vitesse parce qu'il était planqué. J'ai entendu, j'étais à plat ventre sur le volant, j'ai entendu taco, taco. Les deux balles sont rentrées derrière, elles sont sorties par ma glace qui était baissée, On les a jamais retrouvés dedans. Mais quand je suis arrivé à Lyon, je dépose les gars parce que les gars ne devaient pas savoir où je mets la voiture. Donc je dépose les gars dans un bistrot, je leur dis que je viens vous rejoindre après. Et quand j'arrive, je pose la voiture, finalement j'ouvre la porte derrière, il y a toutes les douilles. Alors je prends une poignée de douilles, je mets la poche de mon par-dessus, je ferme la voiture, j'arrive derrière, la roue de secours des tractions, qui est derrière, du fromage de Gruyère. Et ils étaient trois derrière, il n'y en a pas un qui a été blessé. Comment qu'on explique ça? Il devait tirer
vers le bas.
Vers le bas, parce que c'est pas possible. Il y en a deux qui ont traversé la glace au-dessus, qui m'ont tapé derrière la tête. Ça, j'en suis sûr. Et je suis retourné là-bas avec mon petit-fils. J'ai jamais pu retrouver ce pont. Alors, j'ai dit, pourtant, c'était avant d'arriver à Saint-Symphorien d'Ozon. Il y avait une descente, mais avec toutes les déviations qu'ils ont fait maintenant.
Il a peut-être été détruit, ce pont-là.
J'ai pas pu retrouver non plus, là, pourtant. C'est pas loin, à Brevilliers, là, où j'étais faire les tranches anti-chars quand je me suis évadé. J'ai jamais pu retrouver l'endroit.
Non.
C'est-à-dire que ça a été beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que tout m'a dégoûté. J'ai pensé qu'à une chose, c'était bosser. Bosser pour me faire une situation, et bien, puis c'est tout. Parce que s'il y en a qui sont gavés, c'est pas moi. Hein. Moi, ce que j'avais, c'était pas mon trafic que je faisais. Parce que à Lyon, on était bien placé pour ça. Hein.
Allô, Henri ? Ici André !
Ouais !
J'ai décidé de moderniser la France. Faut que je te voie. Dans 3 jours. D'accord, allez droit.
Monsieur André Citroën et avait Monsieur Ford Henri. C'est le travail à la chaîne qu'il a ramené dans notre chère patrie. La France agricole devient industrielle grâce à des patrons comme lui. Les ouvriers se précipitent quai de Javel pour goûter les joies de ce progrès inouï. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateurs inversés. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans, homo cinétiques. Voici les tractions avant, et au salon c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est la traction universelle.
Allô, la tour Eiffel, passez-moi le patron. Allô Gustave, ici André.
Ouais,
j'ai décidé de démocratiser la France. Faut que je te voie. À 3 heures.
D'accord, je monterai chez toi.
Monsieur André Citroën illumine la tour Eiffel. C-I-T-R-O-E-N. Tout Paris la nuit, on prend plein les prunelles. La publicité, c'est le meilleur des hameçons pour pêcher la clientèle. Chouette, il y a un nouveau produit de consommation. Tous les Français se précipitent quai de Javel. Les ouvriers, les PDG, les gangsters comme les flics, tous ont couru poser leur cul dans cette voiture démocratique. Voici les tractions avant et avant qui s'élancent à travers champs. National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Peau. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.
Et vous avez d'autres souvenirs des actions que vous avez faites avec ce groupe? C'était pas toujours des actions sur Lyon, j'imagine, ça pouvait être en banlieue, non?
On a fait sauter.
Vous appeliez groupe Cordeliers, enfin, vous le saviez pas, mais c'était pas uniquement dans le quartier des Cordeliers que vous agissiez,
j'imagine. Ah non, c'était le groupe FTP Cordeliers, mais bon, on a fait sauter les Assyriens du Rhône à mon plaisir. L'anniversaire de la mort de Charles, comment on fait, communiste, Gabriel Péri,
hein? Oui.
On a fait sauter des machines tramway. Qu'est-ce qu'on a fait encore?
Des liquidations de collabos aussi, ou des bombes,
oui,
contre les bâtiments.
L'attaque du comptoir allemand, Lyon allemand, la paye d'une usine, fallait bien de l'argent pour faire vivre les gars. Et ça m'a même valu, c'est ça qui m'a dégoûté. Parce que, après la guerre, je me suis retrouvé donc en prison, comme j'avais mon bazar, puis j'étais militaire. Puis ma mère a été trouvée, l'ancien maire de Vieux-Charmont, qui était un maire communiste, le père Mielet, qui s'est baladé pendant toute occupation avec le béret, avec la Francis de Pétain, pour pas avoir d'ennui. Puis elle lui explique, elle lui demande s'il ne pouvait pas se renseigner. Elle dit, dans les FTP, il n'y avait pas de voleurs, qui a dit. D'accord, dans les FTP, il n'y avait pas de voleurs. Comment faire vivre les gars? Il fallait bien aller les chercher, les tickets d'alimentation. On devait faire un machin, puis c'est tiens, c'est un gars de Vienne, on l'appelait Toumi. Ses copains l'appelaient Toumi. Il y en a un que je sais le nom de Vienne, il s'appelait Bono, parce que il est d'ici, et il avait des parents qui habitaient, je crois, à Loyette, à côté de Jonage, nommé Bono. Il y avait un descendant d'Espagnol qui s'appelait Michel, qui n'arrêtait pas de chanter « Yo te daré in el mos ».
Dans ce groupe de FTP.
Oui. Ceux-là, ils étaient dans l'autre ferme avec moi. Ils n'étaient pas au Nid d'Aigle.
Ils étaient dans le groupe Ville de Lyon? Non, pas ceux-là.
Non, c'était du maquis, ceux-là.
Du Vendémiaire.
Et le Toumi, là, justement, on devait... Ah, je ne me rappelle plus dans quel quartier c'était. Alors, j'avais téléphoné au marchand de pinard de Lamure qui m'envoie, je m'en veux, trois ou quatre tonneaux. Puis... Alors, il y a donc le Michel... C'est qu'il y avait. Et elle, Toumi, il y avait une camionnette, une Juva 4, qui livrait pour l'étiquette d'alimentation. Et là, ça se passait dans une cour, dans une école. Mais, quand on est arrivé, là, bon, ben moi je comptais me mettre au volant de la camionnette qui monte dedans, puis qu'on se barre, il y avait deux gendarmes. Et le Toumi, qui était un gars qui avait tout bouffé, il s'est dégonflé. Et j'ai dit, tu vas vers un. Quand tu me vois, je vais vers la camionnette, tu le braques, et puis ça y est. Tu lui prends son feu, et puis ça y est. Et puis l'autre, tu fais pareil. Ben non. Pour eux, ils ne pouvaient pas le faire. Moi, je le faisais. Moi, ça ne me gênait pas. Mais eux, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, on n'a pas emmené la camionnette. Ah, il était vexé.
Ni les tickets.
Eh ben non. Il a fallu battre en retraite. Et la nuit d'avant, ils avaient couché chez moi, à Jonage. Alors, on était parti à Jonage par le car. On a pris le car de 6 heures le matin pour redescendre donc à Lyon. À 8 heures, les gendarmes étaient là, chez nous. Donc on avait tout de suite été dénoncés, quoi. Il y en a qui les avaient vus, je pense. Ils les avaient vus dans le car, je pense. Ah ben c'était comme ça, hein, fallait...
La menace sous le ciel rouge venait d'en bas des mâchoires, des écailles, des anneaux, d'une chaîne glissante et lourde. La vie était distribuée largement pour que la mort prît au sérieux le tribut qu'on lui payait sans compter. La mort était le dieu d'amour et les vainqueurs dans un baiser s'évanouissaient sur leur victime. La pourriture avait du cœur. Et pourtant, sous le ciel rouge, sous les appétits de sang, sous la famine lugubre, la caverne se ferma. La terre utile effaça les tombes creusées d'avance. Les enfants n'eurent plus peur des profondeurs maternelles. Et la bêtise et la démence et la bassesse firent place à des hommes, frères des hommes, ne luttant plus contre la vie. À des hommes, frères des hommes, ne luttant plus contre la vie. Des hommes indestructibles.
Fallait avoir de la chance.
Ben, moi je dis, j'ai toujours eu de la chance. J'ai eu de la chance quand je me suis fait dénoncer de pouvoir dire que je faisais du marché noir. Que, quand on me disait, tu connais un tel, tu connais un tel, ben non, qui était Sochaux en 37, hein. Je viens de revenir. Donc je connais personne. Et c'est ça qui m'a sorti du bazar. En attendant, j'en ai fait 9 mois et demi quand même en tout. Hein.
Ouais, on va y venir. Donc la fin de votre parcours dans le groupe ville de FTP à Lyon, c'est à quel moment que vous...
Ça devait être en décembre 43.
Que vous arrêtez. Et là, vous...
Que je suis revenu dans la région.
Vous revenez là. Et là, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous êtes revenu là?
Eh ben, quand je suis revenu là, bon ben, je me démerdais et puis je me renseignais parce que comme j'ai toujours de la chance, imaginez-vous qu'un jour je rencontre une cousine par alliance, que son père était marié avec ma tante, qui était veuve tous les deux. Je fais la connaissance d'une dame qui a 10 ans de plus que moi, qui a déjà 3 gosses. Et on se trouve au bistrot, ensemble, à discuter, et j'entends parler de Otto. Au bout d'un moment, tu me... Que c'est cette auto, quelle couleur qu'elle est. Alors ma cousine vient toute rouge. Elle me dit non, auto, c'est le Feldwebel de la Feldgendarmerie de Montbéliard. Quoi? Non, mais t'énerve pas, y a rien de mal, c'est pas. Si t'as pas honte. Je rentre, j'en parle à mon cousin. Mon cousin me dit, mais dis donc, ça peut peut-être servir. Je dis, comment ça? Ben, il me dit, oui. Si tu le vois, tu pourras peut-être savoir la patrouille où elle va. Alors, tous les soirs, au Café des Sports, vers le Grand Pont, à Montbéliard, je prenais l'apéritif avec le Feldwebel de la Feldgendarmerie. Tout le monde a dû me prendre pour un bon collaborateur. Seulement, tous les soirs, je savais où la patrouille allait aller. Et quand ils arrivaient, il n'y avait personne. Mais il y a eu un inconvénient, c'est que l'interprète allemand savait que ma cousine frayait avec lui. Et savait qu'on prenait l'apéritif. Et quand j'ai été arrêté, j'ai passé deux fois au Bristol, là, à la Schlage. Parce que c'est drôle. Depuis que vous êtes en prison, la patrouille, elle ramène toujours quelqu'un. Avant, elle ramenait personne. Non, mais, j'ai dit, une simple coïncidence. Hein, moi, je fais du marché noir. Hein. Moi, je vends des pneus, je vends des cigarettes, je vends des... Deux fois.
À quelle date, votre arrestation ?
Le 17 mars 1944.
Et vous aviez retrouvé ou reconstitué un réseau ici
C'est-à-dire que j'avais tout un tas de gens qui faisaient partie des réseaux.
Vous étiez entré en relation avec eux.
Auxquels je donnais les... Par le fait que j'étais un agent de renseignement.
Il fait du renseignement.
Je participais à...
J'utilisais plus votre revolver, quoi.
Non, ils ont même fini, enfin, d'après mon cousin. D'après mon cousin, ils ont fini dans le canal en face. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils les aient jetés. Enfin, je vais vous dire plus fort que ça. C'est que, quand j'étais en prison, il y a ma mère qui vient me voir. Et puis, alors, on discute. Et puis, le garde, il est au milieu, hein, il se balade. Le garde, il s'appelait un nommé Tamborini. Et puis, j'ai dit à ma mère, les joujoux, le Pierrot, qu'est-ce qu'il en a fait ? Elle m'a dit qu'il les a achetés dans le canal. Alors, une fois que ma mère a été partie, le garde est venu vers moi. On va pas les amener ici, hein. On dit, oui, vous entrez en prison avec deux revolvers.
C'était une prison allemande ou française ?
Non, française.
C'était des Français. Qui...
Non, mais j'étais aux mains des Français, moi.
Oui, ils vous ont pas passé aux mains des Allemands. Ils n'avaient pas de raison, quoi.
Deux fois, ils m'ont appelé au Bristol pour me schlaguer.
C'est ça, mais ils vous ont pas, ils ont pas demandé d'être...
Tu te réveilles au coin de la piole, là, avec un seau d'eau sur la gueule. Pendant 8 jours, bah, tu couches sur le ventre, quand tu veux pas coucher sur le dos. Hein. Puis le 9e jour, tu couches sur le dos, rebelote, on te rappelle, on remet ça. Seulement... Ils n'ont jamais pu avoir de preuves. Ils ne peuvent rien trouver contre moi. Quand on m'a parlé de Gamba, tout ça, et en tant que je les connaissais, moi je ne connaissais personne. J'étais parti en 37 et je revenais maintenant.
Ils n'ont pas fait le lien avec vos activités à Lyon, quoi. Enfin, ils ont...
Ah ben non. Non. Après, quand il y a eu le coup des 3 ans de prison par défaut, ils attendaient, ils voulaient m'envoyer, parce qu'ils ont su pour l'attaque, ils se doutaient pour l'attaque du comptoir allemand, parce que, justement, quand on a attaqué le comptoir allemand, j'avais un pardessus bleu marine, j'avais des grandes pattes, et j'avais un chapeau bleu marine. Et manque de peau, quand j'ai été arrêté, j'avais un chapeau marron et une canadienne. Alors, le juge d'instruction, quand il m'a parlé de ça, il dit, vous voyez bien que c'est pas moi. Et j'ai plus de pattes. Il y a les pattes comme ça. J'ai dit, j'ai pas de pattes, moi. Puis il dit, mais je suis pas en bleu marine, je suis en marron. Non, mais, tout a... Je sais pas, ça a permis que je passe à travers, quoi.
Méfie-toi, ma Francine, de tous les potins du quartier, des ragots de la voisine, des cancans du laitier. Par-dessus tout, ma belle, ne va pas t'alarmer de chaque fausse nouvelle, des gens bien informés. Faut pas, faut pas Francine. Écoutez les racontards des badauds pas trop bavards. Faut pas Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par les âneries des canards. Méfie-toi, je te le demande, la TSF a des dangers, de la sale propagande, des speakers étrangers. Si parfois tu dégotes Stuttgart à la radio, dis-toi que tu serais idiote d'en croire un traître mot. Faut pas Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire, quand il jaspine, que c'est un bon français de Barbès Rochechouart. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par ces discours nazia. Le fureur d'une voix tendre nous redit chaque samedi, je ne veux plus rien prendre, maintenant que j'ai tout repris. J'adore l'Angleterre, j'adore les Français. Pourquoi me faire la guerre quand je veux qu'on me fiche la paix? Faut pas Francine, écouter les racontards du plus barbant des barbares. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. S'il prend pour nous désarmer sa voix câline, c'est pour mieux nous tomber dessus un peu plus tard. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par ses propos de pessimard. Te laisser dégonfler par ses propos de paix, si ma.
Alors je me suis évadé le 28 septembre 1944.
Au bout de 6 mois.
Ouais. Je me suis évadé là, de Brevilliers. Et quand je suis ressorti, d'après, c'était le 29 septembre 1945.
Et entre-temps, à la faveur des travaux qui vous faisaient faire
là où ils me faisaient faire les tranchées anti-char, là. Mm-hmm. C'est là que je me suis évadé. Mais dans l'intervalle, alors, j'avais retrouvé les gars du 411 FTA chez mes parents, à Besançon, qui étaient libérés, et j'avais été faire la guerre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu que 6 mois de prison avec sursis. Parce que mon avocat, il a dit, bon, je vais vous expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il est. Parce qu'il a peut-être il a déserté les chantiers de jeunesse, il a emmené les habits, seulement il était faire la guerre et tout. Il dit, bon, allez, hop, 6 mois de prison avec sursis.
Ça, c'était quand, votre évasion, vous êtes resté évadé combien de temps après le 28 septembre 1944? Assez vite ou plusieurs mois?
Non, guerre de temps après, je suis passé par la Suisse pour rentrer à Besançon qui était libéré. Alors, encore une anecdote. On arrive en Suisse, bon, les Suissesses, bien gentilles, nous amènent les corbeilles remplies de pommes, tout ça, et les Suisses nous emmènent pour manger. Et je vois un cousin sur le bord de la route, tout rouge. Je vais à fond, j'ai dit, qu'est-ce que t'as, t'es blessé? Il me dit, non, pourquoi? Ben, je dis, t'es tout rouge. Et il pleuvait. Puis il avait un béret, c'était le cuir qui déteignait. Bon. On nous paye à manger, on nous met dans un train chauffé, on nous emmène aux Verrières, à la frontière, là-dessus. Et puis là, on sent qu'on arrive en France. Hein, on nous met dans les wagons en bestiaux pour nous emmener à Pontarlier. Alors à Pontarlier, je connaissais un restaurateur de Montbéliard qui était avec nous. Et il me dit, ah, moi je buvais pas une bouteille de vin par an dans ce temps-là. Alors il me dit, viens, je connais chez la mère là-bas. On va aller boire un coup. Je ramasse une bonne cuite, incroyable. Et le lendemain, j'entends, on va les emmener à Bourg. Et moi, je ne veux pas aller à Bourg, mes parents sont à Besançon. Alors je fonce. Je vois un gars vers une petite porte, un FFI qui était là, qui montait la garde. Je lui dis, moi, mes parents sont à Besançon, je ne veux pas aller à Bourg. Elle me dit, oui, ben passe. Il dit, bah attends, cherchez mes cousins. Alors je vais chercher mes copains, puis mes cousins, on passe. On va prendre le car à Pontarlier pour aller à Besançon. Alors on arrive à 50 mètres de la place, le Maurice, demi-tour droite. Mon cousin me dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais me faire arrêter tout de suite. Procureur, juge d'instruction, le sous-préfet qui avait passé par la Suisse, puis qu'attendait le car pour aller à Besançon. Elle dit, je ne veux pas me faire arrêter tout de suite. Donc, concernant, j'avais un cousin qui était là avec sa fille, qui devait avoir 3 ans à ce moment-là. Je lui dis, toi, tu prends le car, puis quand tu arrives à Besançon, tu dis à mes parents, j'arrive. Je ne savais pas que mon père était déporté, je ne savais rien. On a fait presque toute la route à pied, finalement. On a trouvé une camionnette FFI taulée. Ils nous ont mis derrière. Puis on nous a débarqué place Saint-Pierre à Besançon. Tonnerre, que c'était libéré, qu'il y avait plein de militaires. Ça fait drôle, hein. Quand tu sors d'ici, que c'était mort, tout ça. Alors, je suis arrivé là-bas. Le juge d'instruction, mon Béliard, il s'appelait Duba. Peut-être 4-5 jours après, je me trouve au milieu du pont battant, lui, au milieu du pont battant de l'autre côté. Et on s'est regardé. J'ai dit, tu fais un geste, vieux, tu vas dans le doux tous les coups. Hein. Ben, il a baissé les yeux et il est parti. Ben, il a eu intérêt. Hein. Il aurait fait un geste pour appeler un flic. Je suis faussé dessus, je le foutais dans le doux. Hein. Mais lui, c'est plus 12 balles dans la peau, c'est 8. Là, il condamnait les résistants. Et à Besançon, j'ai condamné les collaborateurs. Tout ça, ça m'a dégoûté. C'est incroyable. Alors au dernier moment, on passe par la Suisse, on arrive à Besançon, on s'est libéré, puis il n'y a pas d'enquête de fait, rien du tout. C'est pas logique.
Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire.
Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure.
Mère de cette douleur, aux lumières mouillées,
sept glaives ont percé le prisme des couleurs.
Le jour est plus poignant qui pointe entre les pleurs. L'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé.
Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche par où se reproduit le miracle des rois. lorsque le cœur battant, ils virent tous les trois le manteau de Marie accroché dans la crèche.
L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens moins démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer.
Eh oui.
Et il a fait une belle carrière. La suite de sa carrière, il a continué, non?
Non, et je ne me suis jamais renseigné. Mmh. Pourtant, après, quand je me suis marié, j'ai resté un moment à Besançon. J'avais pris une crèmerie en gérance.
Vous avez été délivré de tout ça, mais il a encore fallu du temps pour que vous soyez démobilisé, enfin que vous soyez dégagé de toute contrainte dans ce domaine, quoi.
J'ai été démobilisé au mois d'avril 1946.
Et en faisant des démarches
avec des papiers du mois de mai 1945, sous le nom d'un régiment qui était dissous et qui était à Oran.
Et avec des difficultés pour obtenir démobilisation.
Voilà. Et quand on s'engage, on nous paye la moitié de la prime. Et au bout de 6 mois, on nous paye l'autre moitié. Comme j'ai fait que 28 jours, on m'avait payé que la moitié. Parce que j'ai dit, ils retrouveront jamais pour me faire un livret militaire. Putain, fou! 6 mois après, on m'amène un livret militaire où tout était marqué dessus. Ah ben, je dis, bande de salauds. Je leur écris, Renaud. Je leur dis, vous devez... On me répond que c'était trop tard. Donc, on m'a payé avec la moitié de la prime.
Et tout ça, vous en avez parlé après ou... Vous n'avez pas été dans les écoles pour parler de résistance ou de choses comme ça?
Non.
Ça n'a jamais été votre truc, non.
J'ai été dégoûté. J'ai été complètement dégoûté de tout. Je suis toujours resté communard, hein. Mais d'avoir vu tout ce que j'ai vu, hein, d'avoir fait ce que j'ai fait, et de voir l'autre con qui m'a dénoncé, la Gremillot, qui a donné sa voiture au maquis du Laumont 8 jours avant la débâcle. C'était un grand résistant. Il a eu de la chance que j'étais pas là à la libération. Je le foutais en l'air, hein. Il en était sûr. Et j'étais fin fou à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Il dénonçait des résistants.
Il en a fait plusieurs comme ça. Il en a fait plusieurs. Mais seulement au dernier moment, il a donné sa voiture à la résistance, donc il était un bon résistant. Voilà. Et il y en a combien comme ça? Hein?
Et vous avez renoué, par exemple, avec le maquis de la vallée d'Azergue, vous avez renoué à quel moment les contacts?
Il y a trois ans.
Pas très longtemps.
Il y a 3 ans, c'est pas moi, c'est mes petits-enfants, avec leur bazar d'Internet et tout ce que tu veux, et qu'on recherchait. Tabla! Papy, il y a une société. On a téléphoné, on fait le 26 mai, Le 26 mai, ils vont entendre quelque chose, Chouanet. Parce que je me gêne pas pour leur dire. Je réserve mes deux places au restaurant, là, que mon petit-fils, qui est de droite, qui mange avec moi tous les mercredis, m'a dit qu'il m'emmènerait là-bas. Parce que c'est un samedi, donc ma fille ne peut pas fermer le magasin. Mmh. Et oui, c'est comme ça que je les ai retrouvés. Bon, bah, j'ai retrouvé qui ? Personne que je connais.
Oui, il y a très peu de gens du groupe Vendémiaire. Alors, est-ce qu'ils ont tous disparu ou est-ce qu'ils sont dispersés ? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas récupéré de témoignages, à part vous, du groupe Vendémiaire.
Quand ils ont dissous le groupe FTP Cordelier, plus personne. Et puis personne. Il en restait deux qu'on était en prison. Tous les autres ont été dénoncés. Que ce soit Dardel, que ce soit...
Oui. Et le regard que vous portez sur 60 ans après, 60, oui, à peu près celui que vous aviez juste dans les années qui ont suivi.
Je suis toujours aussi écœuré. À tel point... quand Mitterrand a été nommé président de la République et qu'il a dit « je veux prendre 3 millions de voix aux communistes », j'ai dit « les socialistes, vous n'aurez plus jamais ma voix ». J'ai voté Poutou, c'est au premier tour, deuxième tour, j'ai voté Blanc. Ma fille a essayé de me raccrocher après le discours de Hollande à Limoges. Il paraît qu'il a dit que si on n'avait pas eu les communistes en 1943, les Allemands seraient encore là. J'ai dit, je le sais, mais on ne veut pas en convenir. C'était une sale race. Mon petit-fils qui a 24 ans, j'ai dit, tu te rends compte, dire que dans le temps, ils avaient belle mine en disant que les communistes, c'était des Russes. J'ai dit aux Russes, aujourd'hui, la Russie, elle est plus communiste. J'ai dit alors, et les communistes reviennent. J'ai dit alors, explique-moi, pourquoi? Tu peux pas dire qu'on est russe. J'ai dit, moi, je me suis trouvé à la boîte chez Peugeot. Là, j'étais au parti chez Peugeot. On fait une réunion. Il y a un con, parce que des cons, il y en a partout. Il y a un con qui dit, il manque les Russes arrivent qu'on fasse envoyer les capitalistes. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, tu veux mettre Jean-Pierre Peugeot là pour remplacer 42 000 ouvriers là, au milieu? J'ai dit, en plus de ça, j'ai dit, je vais te dire une chose, c'est que si les Russes y viennent, hein, et je fais comme avec les Allemands, hein, je prends la mitraillette et je tire dedans. Hein. Mais, moi je suis français. J'ai dit, je suis français. Alors j'ai des gros problèmes. Parce que elle peut pas blairer les Rital. Hein. Alors mon fils aimerait une Cosi. Ma fille, elle aimerait un Casoli. Mon neveu, il s'appelle Pito. Il est marié avec une Morandini. Alors quand je les entends me déblatérer les jeunes arabes, je leur dis fermez vos gueules. Moi, je fais la guerre avec eux contre les Allemands. Mon père a fait la guerre avec eux contre les Allemands. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Rital, pendant ce temps-là? Ils mitraillaient nos colonnes de réfugiés. Puis, taisez-vous. Bon, il y a un coup, je leur ai dit. Moi, je suis d'accord, hein. Tous les immigrés, fils d'immigrés, allez chez eux. Ah ben, j'ai dit, ma foi, au revoir la famille, hein. Tu n'y arrêteras pas, nous. Non, mais c'est vrai.
C'est un Rital et sa boîte à frissons, un Auvergnat et sa cabrette, en mélangeant les pinceaux de leurs chansons, qui ont inventé les bals musettes. C'est un petit juif échappé du ghetto, qui a fait sur Paris les airs les plus beaux, des chansons qui se faufilent sous les pavés, vers la plage, au bateau renversé, sur les rêves des émigrés. C'est la guerre où vont valser les enfants. C'est Manoukian sur l'affiche rouge. Faites Nat le noir qui rigolait tout le temps. Dans son tata, crains plus qu'il bouge. C'est Abdel qui s'est tourné vers la Mecque. Au fond de la tranchée des baïonnettes. Mort pour la France et ses beaux paysages. De Dakar à Saigon, quel régal. Nos couleurs sur les cartes postales. C'est la Java de tous les clandestins, quand les petits bateaux ont des jambes pour nous mener au joyeux lendemain, où l'on danserait tous ensemble. Mais les bateaux, ils sont en quarantaine, la misère est une île un peu lointaine. Nos grands-papas pourtant s'y sont frottés, sans culotte affamée, ou canuts, pauvres gens de partout venus. Chant de tournesol à midi, dans les yeux de Vincent qui brûle. C'est Picasso, c'est Modigliani, et la beauté qui nous bouscule. Dans les banlieues, c'est un raclé d'enfer, une grande fanfare qui voudrait prendre l'air. Et des mômes qui naissent en technicolore, des blacks, des jaunes, des verts. Oh là là, quelle mélodie, Bobby. C'est un ridal et sa boîte à frissons, un auvergnat et sa cabrette, en mélangeant les pinceaux de leurs chansons qu'ont inventé les Balmusettes.
Ainsi se termine cette deuxième émission vendémiaire consacrée à notre deuxième entretien avec Maurice Pierre. Au fil de celle-ci, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La complainte des nazis sur les paroles de Maurice von Hobbs, la musique celle de la complainte de Mandrin, interprété par Mouloudji avec Aimable à l'accordéon. Puis c'était Marc Augeret qui chantait la composition paroles et musique de Jean Vasca vivant. Ensuite, vous avez entendu Risset Barrier interpréter les tractions avant sur ses paroles et sur la musique de Bernard Leloup. Puis c'est Claude Vinci qui, sur la musique d'Yvonne Schmitt, interprétait le poème de Paul Éluard « Un feu sans tache ». Ensuite, vous avez entendu la chanson « Francine » de 1939, interprétée par Fernandel, sur des paroles d'Albert Wilmets et une musique de Casimir Oberfeld. Casimir Oberfeld est un compositeur juif d'origine polonaise qui vivait en France depuis 1931. Il dut se réfugier à Nice en 1943. Il y sera arrêté et déporté par le convoi 63 à Auschwitz le 17 décembre 1943. Il n'en reviendra pas, mourant au cours d'une des marches de la mort de la fin de la guerre. Puis vous avez entendu « Les yeux d'Elsa », un texte de Louis Aragon mis en musique par Maurice Vander et Jean Ferrat, interprété par André Tlabeau. André Tlabeau était un chanteur à succès au début de la guerre. Il se mit à la solde du régime de Vichy sur Radio Paris pour animer une émission pendant toute cette période, ce qui ne lui vaudra que 2 ans de suspension d'activité à la Libération. Il a peut-être bien, lui aussi, essayé de se refaire une nouvelle moralité à sa manière dans l'air du temps, en chantant « Triolet et Aragon » quelques années après, en 1956. Aragon, dans cette chanson « Les yeux d'Elsa », sur la musique d'un tout jeune auteur-compositeur encore inconnu à l'époque, Jean Ferrat, fils de déporté. Enfin, vous avez entendu « C'est un rital », une chanson interprétée par Michel Bernard qui l'a composée, paroles et musique. Nous terminerons cette émission vendémiaire, la deuxième du nombre, en remerciant chaleureusement Maurice Pierre, qui, nous vous le rappelons, est un des derniers survivants du maquis vendémiaire de la vallée d'Azergue, le premier maquis du département du Rhône, qui a existé entre mars et décembre 1943. Bonsoir. Thank you.
Thank you.